Bon ben, ça fait un an, on était frappé par cette pandémie et on connaît pas mal la suite des choses, c'est-à-dire le confinement, une bouffée d'espoir durant l'été, puis le reconfinement à l'automne, puis ça continue.
Oui, c'est ça. Et puis là, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine de relâche qui commence.
Oui.
Est-ce que ce sera... est-ce qu'on va en sortir... est-ce qu'on va pouvoir continuer à observer une baisse des cas et des hospitalisations ou est-ce que la semaine de relâche deviendra le carburant pour repartir le nombre de cas à la hausse? Alors, c'est le variant, Paul. C'est le variant et puis c'est la vaccination. Comme disait Carl Weiss, tu le fais beaucoup en entrevue, moi je l'ai fait quelques fois aussi, et la semaine passée ou la semaine d'avant, il me disait, c'est comme une course. Il y a deux voitures. Il y a la voiture vaccin, puis il y a la voiture variant. La question est de savoir laquelle des deux va gagner. Mais en tout cas, tout ça pour dire, Paul, il faut quand même prendre un peu de recul et réaliser que la COVID nous aura fait manquer deux printemps. On aura passé deux printemps. Puis on sait à quel point c'est important les printemps pour nous là, qui sortons de l'hiver. C'est comme le réveil, c'est la libération. Et on aura passé, écoute, ça marque un peuple, deux printemps dans la COVID. Je veux dire, faut prendre quelques secondes pour s'arrêter puis y
penser.
Que
la première fois, on l'a eu sur la gueule.
Ouais.
Tu comprends, personne n'a vu venir ça trop. Puis tu sais, t'es pas habitué de te faire dire « il faut maintenant se confiner ». Bon. Une fois que tu t'es remis du premier choc puis que tu as eu un peu de liberté durant l'été, de te faire reconfiner à nouveau, là, avec un couvre-feu par-dessus ça.
Une chance qu'on ne le savait pas, Paul, au début, qu'on allait passer deux printemps dans
la
COVID.
C'est sûr.
Parce qu'on aurait été pas mal déprimés. Mais bon, on pense qu'on est en train de s'en sortir. Évidemment, les vaccins, ça va mieux. On espère que la campagne de vaccination va s'accélérer. Et puis, évidemment, il y a un bon bout qui, comme d'habitude, nous appartient. Est-ce qu'on va réussir à maintenir notre discipline collective, respecter les consignes, éviter les rassemblements pendant la semaine de relâche pour faire en sorte, justement, qu'on contienne le plus possible la propagation du variant ou des variants? Bon.
Est-ce que tu penses que c'est l'objectif réel, c'est le congé de Pâques, là? C'est-à-dire que là, on va revenir de la semaine de relâche, on va mesurer les effets, est-ce qu'il y a plus de cas, est-ce que la vaccination va mieux, est-ce qu'il y a des vaccins qui s'ajoutent. Donner un peu comme objectif aux gens, on va lever le pied peut-être pour le week-end de Pâques.
Bien là, ça c'est une excellente question. En date d'hier soir, ils n'étaient pas capables de me dire à Québec quand Legault allait tenir son point de presse cette semaine. Et puis moi, ce que je comprends, Paul, c'est qu'ils attendent d'avoir quelque chose à nous annoncer. Ils ne veulent pas un point de presse qui part dans toutes les directions. Fait qu'ils veulent avoir quelque chose à nous annoncer. Et je te rappelle, il y a quelques semaines de ça, ils nous ont dit, on va décider si on prend des zones rouges et on les transforme en zones oranges au retour de la relâche. Donc là, tu regardes les cas, Paul, Chaudière-Appalaches, ils ont moins de 10 cas par jour, 10 nouveaux cas par jour depuis une semaine. Mauricie, centre du Québec, ils ont entre 10 et 20 cas. Mm-hmm. 10 et 20 nouveaux cas par jour en moyenne. L'Estrie, entre 20 et 30. Capitale-Nationale, entre 30 et 40. Paul, est-ce que c'est ça qu'ils doivent... Moi, je pense que c'est ça qu'ils doivent décider cette semaine. Ils doivent décider, est-ce qu'au retour de la relâche, on permet à ces régions en rouge de passer à l'orange? Et j'ai bien l'impression qu'ils attendent de voir jusqu'à quel point le variant fait des dommages pour prendre cette décision-là.
Mais est-ce qu'on va prolonger aussi l'ouverture des piscines pour les bulles, pour les cellules familiales, des arénas, les sports intérieurs, donc les cinémas? Parce que je me souviens du point de presse, là, parce que M. Legault, il avait dit, moi, je n'ouvre pas pour fermer, mais le Dr Arruda avait
dit, on va réévaluer.
Nous verrons.
Oui, c'est ça.
Nous verrons.
C'est ça. Très bien. Alors...
Voilà.
Parlons de... Alors, juste pour vous dire, avant de parler un petit peu du livre d'Alec Castonguay. Hier, 737 nouveaux cas, 9 nouveaux décès, dont 4 dans les dernières 24 heures. Surveillez les chiffres aujourd'hui. Moi, ce que j'entends à Québec, là, c'est qu'on va avoir des très bons chiffres aujourd'hui. Évidemment, c'est des chiffres de la fin de semaine.
C'est ce que j'allais dire.
Mais en même temps, moi, là, on me dit « surveille les décès ». Moi, j'ai l'impression, Paul, qu'on se rapproche d'une journée où ça va être zéro. Je ne te dis pas que ça va être aujourd'hui, mais je pense qu'on ne sera pas loin de zéro décès aujourd'hui. Alors, à surveiller, ça pourrait nous donner encore une petite bouffée d'espoir.
Maintenant, un livre qui est très attendu, qui officiellement sort aujourd'hui, qui est le livre du journaliste Alec Castonguay, qui raconte finalement la gestion de la crise pendant un an.
C'est ça, Le printemps le plus long. Alors, je sais que toi, tu l'as lu. Moi, j'ai commencé à lire.
Et je reçois Alec Castonguay vers 9h15 à peu près.
Oui, puis moi aussi, je vais le faire un peu plus tard. Alors, je n'ai pas terminé de lire, donc je le dis d'emblée. Mais en même temps, il y a des passages déjà qui sont franchement fascinants. Le bout où le sous-ministre du premier ministre, Yves Ouellette, appelle le sous-ministre à l'agriculture, puis il dit « Est-ce qu'on va pouvoir encore recevoir les fruits et les légumes des pays chauds? » Parce que le gouvernement, puis Yves Ouellette et compagnie, ils craignent que Donald Trump ferme les frontières et donc garde pour lui ses fruits puis ses légumes. Et puis là, il demande, il dit, on va-tu manquer de nourriture? Combien de temps on peut vivre au Québec en mangeant surtout du cochon, du poulet et des œufs? Et là, le sous-ministre du MAPAC, le sous-ministre de l'Agriculture, dit, on peut tenir longtemps en mangeant du lard et des patates jaunes.
Ça fait les belles histoires des pays d'en haut, là.
Eh, boboy! Mais c'est là que tu réalises à quel point il y a toute une gestion de crise.
De dépendance, là, c'est-à-dire énergétique, alimentaire.
Le kérosène aussi, ils s'inquiètent des approvisionnements en kérosène, puis ont besoin des avions pour aller chercher les fournitures médicales, puis ils se demandent, est-ce qu'on va manquer de kérosène? Est-ce qu'on va être capable de faire voler nos avions? Mais j'allais te dire, Paul, puis c'est une évidence que de le dire, mais il faut parfois se le répéter, il y a un paquet d'informations qu'on ne savait pas. T'sais. Il y a un paquet de choses avec lesquelles ils ont jonglé. Des problèmes auxquels ils ont été confrontés, des peurs qu'ils ont eues, qu'ils ne nous ont jamais communiquées. Tu sais, puis c'est normal. Il ne faut pas qu'ils nous disent tout, parce que par moments, ce serait inquiétant. Ça me rappelle un peu la gestion du verglas de Lucien Bouchard.
Le fameux vendredi au centre-ville, là.
Ouais. Puis quand on avait failli manquer d'eau potable, on l'a appris seulement par après. Alors, c'est un récit captivant que ce livre de Castonguay.
Mais il y a un détail que parce que tu n'as pas fini, là.
Non.
Mais qui va te faire sursauter.
C'est-tu celui sur Gaétan?
Oui. Ils ont pensé embaucher Gaétan Barrette pour les aider, le faire démissionner comme député et le prendre comme il a fait le réseau dans sa forme actuelle.
Je l'ai vu,
bon.
Je suis rendu là.
Puis là, après ça, ils se sont dit non, il est trop polarisant, on va laisser faire.
Page 166.
OK.
Non, puis c'est intéressant parce qu'il y a des conseillers de Pascal Bérubé, le chef parlementaire du PQ à ce moment-là, qui lui disent peut-être que ce serait une bonne idée que des députés d'opposition rentrent au Conseil des ministres pour que ça devienne un gouvernement de coalition, une espèce de gouvernement de guerre. Et Bérubé dit non, Legault n'a pas besoin de ça pour gérer la crise. Mais dans la cellule de crise, c'est Martin Koskinen qui est cité, le chef de cabinet de Legault, qui dit peut-être que Barrette. Peut-être que Barrette, ça pourrait être une addition intéressante au sein de la cellule de crise. Hein? On n'en fait pas un ministre.
Non.
Mais comme tu dis, il aurait fallu qu'il démissionne.
Mais les ministres, là-dedans, finalement, quand tu les lis, tu t'aperçois qu'ils ont un rôle...
De figurant.
Ouais.
Au mieux. Et la stratégie du gouvernement, ça a été, dès le départ, Paul, de dire « vous vous taisez ». Les députés puis les ministres, vous n'avez plus le droit de parler aux médias. C'est quelque chose, Paul. Pense-y. Il dit à son gouvernement, à son conseil des ministres...
Un discours unique.
Un canal. Celui du PM. On veut que ce soit le point de presse quotidien du PM qui serve de canal unique. On veut pas
de... Mais même dans la prise de décision, là, tu t'aperçois que c'est le cabinet, point.
À part la ministre de la Santé, McCann, puis par la suite Dubé...
Ouais.
Puis tu vois les frustrations que Legault a par rapport au manque de fiabilité de l'information qui lui est transmise. C'est pas pour rien que M. Gendron va sauter comme sous-ministre à la Santé. Hein, il va lever feutre à un moment donné parce que tu sens dans le récit...
Mais Mme McCann aussi va lever feutre.
Et voilà, Mme McCann va sauter. Et ce qu'on comprend, c'est qu'elle paye pour, en partie du moins, pour le manque de fiabilité de l'information.
Mais ce que ça montre aussi dans le livre, je sais pas si tu as remarqué ça, c'est le je m'en foutisme des gouvernements, là. Ottawa, Québec... sur les questions de santé publique. L'agence fédérale qui fonctionnait quasi au neutre...
Oui, qui paraît pas très bien dans le récit, d'ailleurs.
Puis le docteur Arruda paraît pas très bien non plus.
Mais ça, effectivement. Hein?
Ça grinche un peu. C'est-à-dire que de dire que tout... Tu sais, il est en vacances, puis il dit, voyons, on doit voir si le virus va arriver ici. On a vu d'autres. Puis avant que ça se rende jusqu'aux politiques, que la crise qui se dessine va être majeure, là, ça a pris du temps.
Ouais.
Mais, tu sais, la gestion des équipements... Tu sais, c'est comme... Ça ne peut pas arriver, donc c'est pas une priorité.
Non, c'est ça. C'est qu'il
ça revient souvent, je trouve.
Il réalise pas.
Enfin, on va en parler.
Oui, c'est ça. Alors, c'est un livre intéressant, si vous voulez en savoir davantage. Puis on reparlera, Paul, du jonglage. Jonglage de M. Legault, qui, dans des entrevues au cours des derniers jours, a parlé d'un troisième mandat. Moi, je pense que c'est lié à cette crise de la COVID, tu sais, parce qu'il doit se dire, elle m'a bouffé du temps, elle m'a pris au moins une année, peut-être deux années. Fait que je veux reprendre ce temps-là dans un éventuel troisième mandat.
Moi, Louis Lacroix a fait une entrevue avec M. Legault la semaine passée, qu'on va diffuser ce matin, là, dans une partie dans l'émission, où il dit qu'il veut nationaliser les centres de soins de longue durée, privés, là, mais non conventionnés. Pas certain, moi, que l'État va faire mieux, là, mais ça, c'est une autre question.
Il faudra voir la facture.
On va en parler tantôt. Allons-y, il est 7h12. La 20, monsieur.